Orange Monnaie, transfert d'argent et paiement de facture, simple, rapide, économique, vous propose Appel sur l'actualité.
Appel sur l'actualité.
33 9 693 693 70.
Juan Gomez.
Bienvenue, l'antenne vous appartient. Comme tous les jours, RFI vous donne la parole et dans 30 minutes, ce sera comme chaque vendredi, la libre antenne. Vous pourrez évidemment commenter l'actualité de votre choix, revenir sur tous les sujets qui vous ont marqué ces derniers jours dans l'actualité française, internationale, africaine. Vous savez que tous les sujets nous intéressent, donc où que vous soyez, à l'étranger, en France, eh bien rejoignez-nous, appelez-nous et nous vous donnerons la parole. Vous pourrez lancer le débat tout à l'heure. Vous êtes quelques-uns ce matin à souhaiter réagir au processus de transition au Burkina Faso. C'est vrai qu'on avance, on avance. La polémique déclenchée par le dernier livre de Pierre Péan, dans lequel il affirme que le président gabonais est nigérian, là aussi vous êtes nombreux. Beaucoup de réactions. On croule sous les commentaires, aussi bien au standard que sur la page Facebook de l'émission, concernant l'interminable feuilleton de la Coupe d'Afrique des Nations. Fin du suspense, peut-être aujourd'hui, point d'interrogation, on va voir ça. Et on en parlera évidemment ensemble. Un seul numéro, 33 9 693 693 70, 09 693 693 70 si vous nous appelez de France. Mais d'abord, c'est votre rendez-vous avec la rédaction d'RFI. Ce sont vos questions pour mieux comprendre l'actualité et sans surprise, beaucoup de questions sur la Coupe d'Afrique des Nations 2015. Bonjour Philippe Zigraf.
Bonjour.
Merci Philippe d'être avec nous, journaliste au service des sports d'RFI. C'est vrai qu'on attend avec impatience que la Confédération africaine de football dévoile son plan B après la demande du Maroc de reporter la CAN en raison de l'épidémie d'Ebola. On sait que cette demande a été rejetée par la CAF. Le Maroc s'est vu retirer l'organisation de la compétition. Du coup, ça a suscité beaucoup d'appels au standard. La première question nous vient de Lomé. Valentin est avec nous. Bonjour.
Bonjour, Juan.
Bienvenue, on vous écoute avec Philippe Zigraf.
Merci, Juan. Par rapport à la CAN 2015, après la disqualification du Maroc pour organiser la CAN 2015, certains pays africains ont démenti vouloir l'organiser. Alors, ma question est de savoir, y a-t-il d'autres pays qui manifestent leur volonté de l'organiser à cette heure?
Philippe, c'est vrai qu'il y a beaucoup de noms qui ont circulé sur les réseaux sociaux, dans les médias. On a du mal à s'y retrouver à l'heure actuelle. Ce matin, on en est où exactement à 9h12?
Alors, la piste la plus chaude, c'est la Guinée équatoriale. Alors, hier, une délégation de la CAF était au Palais du Peuple à Malabo pour rencontrer Teodoro Biangema, le chef de l'État. Et puis aujourd'hui, Issa Hayatou, le président de la CAF, de sources sûres, se rend à Malabo pour rencontrer le chef de l'État. Je pense pas que ce soit une visite d'agrément. Je pense que ça va discuter beaucoup. La Guinée équatoriale a des stades. Elle a co-organisé avec le Gabon, on le rappelle, la Coupe d'Afrique des Nations 2012. Là, elle peut l'organiser seule. Elle a deux stades aux normes, les deux stades de Malabo et de Bata qui ont servi à la CAN 2012. Et elle a depuis construit d'autres stades. Alors, ils ne le sont peut-être pas aux normes 100% FIFA, mais les aménagements pourront être faits dans les semaines qui viennent si la Guinée équatoriale est choisie. Et je pense que la CAF ne va pas trop s'embarrasser de ces détails, entre guillemets, parce qu'il faudra quand même des stades sécurisés, des stades tout à fait aux normes. Mais bon, elle a quand même le dos au mur, on le rappelle, donc elle serait tout à fait désireuse de venir organiser sa CAN en Guinée équatoriale.
La Guinée équatoriale est également, il me semble, aussi candidate pour la CAN 2027, pour essayer de reprendre le relais de la Libye après le forfait de ce pays.
Oui, exactement. Mais bon, voilà, l'urgence fait que la CAF a sans doute contacté la Guinée équatoriale il y a déjà quelques jours, comme d'autres pays, pour pouvoir organiser cette CAN. Et je pense que là, la Guinée équatoriale verrait d'un bon oeil cette organisation, parce qu'en 2017, elle aura peut-être le Gabon, qui sera candidat tout seul, l'Algérie, l'Égypte, qui ont dit qu'ils seraient candidats, l'Égypte et l'Algérie la grande favorite, donc ce serait une bonne occasion d'organiser seule une CAN, parce qu'on rappelle qu'en 2012, elle l'a co-organisée avec le Gabon, mais qu'elle voulait la faire toute seule, et la CAF n'avait pas voulu. C'est un pays qui allait, pour terminer sur la Guinée équatoriale, parce que c'est vraiment la piste la plus chaude aujourd'hui, à l'heure où l'on parle, possède des infrastructures routières, hôtelières, il n'y aurait absolument aucun problème pour l'organiser dans les deux mois. Donc voilà pour la Guinée équatoriale. Le Gabon, on a parlé effectivement d'une co-organisation à nouveau 3 ans plus tard. La Fédération gabonaise a dit avant-hier, nous on n'a pas de nouvelles de l'État, on n'a pas de nouvelles du gouvernement. Bon, c'est un vice-président de fédération qui l'a dit, si la décision se prend au très haut niveau, et ça peut se prendre au très haut niveau, entre Hayatou et directement les chefs d'État, on sait qu'Ali Bongo est un passionné, un connaisseur de football. faut pas retirer entièrement la piste gabonaise, mais je pense que c'est plutôt la piste Guinée-Équatoriale toute seule.
On devrait en savoir plus dans la journée, théoriquement.
Oui, surtout qu'hier, oui, alors normalement c'est aujourd'hui, au plus tard samedi.
Demain.
Voilà, au plus tard samedi, donc c'est demain. En pleine journée éliminatoire de Cannes, parce que c'est l'avant-dernière, la cinquième avant-dernière journée. Certains ont dit, oh, on va peut-être aller jusqu'au 19 novembre, au matin de la dernière journée, donc mercredi, mais ça fait un petit peu trop tard. Et Issa Hayatou, il y a quelques jours, l'a annoncé, ce sera sans doute dans 3 ou 4 jours.
Oui, alors on a parlé de plusieurs pays africains, mais il n'y a pas que les pays africains. Il y a aussi le Qatar, qui est revenu, qui est arrivé sur le devant de la scène, dans les réseaux sociaux.
Oui, alors juste avant de parler du Qatar, Juan, un tout petit mot sur, vous en parliez, des autres pays africains. On évacue Afrique du Sud et Ghana qui avaient été contactés au début et qui ont dit non très vite. L'Égypte, non dans un premier temps, oui il y a quelques jours, et à nouveau non par l'intermédiaire du président de la fédération qui a dit non, c'est trop court, le budget est trop important, puis il y a aussi des problèmes aussi d'instabilité, d'insécurité en Égypte. C'est un petit peu la même chose au Nigeria, qui n'avait pas fait mystère de sa candidature, mais il y a tellement de paramètres, l'insécurité, l'instabilité, même si le Nigeria a beaucoup de beaux stades. Et puis il faut savoir que le 14 février, une semaine après la finale de la CAN, aura lieu l'élection présidentielle au Nigeria. Est-ce qu'on peut imaginer qu'une grosse compétition comme la Coupe d'Afrique des Nations se dispute en même temps qu'une campagne présidentielle ô combien importante, évidemment, par définition. Donc voilà, ça c'est le Nigeria, la piste est quand même abandonnée. Alors, vous me parliez du Qatar.
Du Qatar, oui.
Alors oui, le Qatar, on en a beaucoup parlé ces derniers jours. Avant-hier, on disait oui, le Qatar s'est positionné, mais la CAF, par un de ses membres, un membre de son comité exécutif, nous avait dit nous n'avons jamais contacté le Qatar. Bon, c'est resté un peu en sommeil pendant quelques heures, et puis hier matin, le président de la fédération du Qatar dit, je vous cite la déclaration, le Qatar est prêt à apporter toute l'aide qu'on lui demandera officiellement pour accueillir la CAN 2015. Accueillir, ça veut dire accueillir, abriter, voilà.
Organiser, quoi.
Organiser, évidemment. Alors, le membre du comité exécutif que j'ai eu hier au téléphone, qui veut rester anonyme, hein, parce que pour l'instant il ne dévoile absolument rien, m'a dit, mais non, c'est totalement irréaliste, on peut pas imaginer faire une Coupe d'Afrique des Nations sur le terrain d'une autre confédération, c'est-à-dire asiatique, pour le pas nommer, le Qatar. Donc, beaucoup de gens disent, ce serait une honte pour l'Afrique, même des Africains, eux-mêmes, qui le disent. Donc, je pense que la piste du Qatar... Alors, il faut pas entièrement la négliger. Parce qu'on rappelle que la CAF a le dos au mur et qu'elle elle doit l'organiser, sa CAN, puisqu'elle veut l'organiser aux dates prévues.
Coup d'envoi théoriquement prévu le 17 janvier.
Ah oui, bah,
dans
théoriquement,
deux mois.
La CAN ne veut pas déroger à cette règle. Voilà. Donc ça, on peut en reparler après. Mais donc, il faut pas omettre la piste Qatar, mais c'est faible, parce que tous les gens qu'on a eu, les dirigeants africains disent non, c'est pas possible. On ne peut pas aller jouer au Qatar, mais le Qatar fait offre de service, faut pas l'oublier.
On repasse au standard, il y a beaucoup de questions. Yannick est avec nous, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes dans le nord du Gabon, on vous écoute avec Philippe Zigraf.
La CAF a annoncé que plusieurs pays étaient candidats à l'organisation de la CAN, mais les fédérations ont démenti. Pourquoi la CAF fait de telles annonces sans l'accord des fédérations? Ensuite, comment sont prises les décisions au niveau de la CAF?
C'est vrai que j'entendais pas plus tard que mardi dans Radio Foot International Constant Oumarou, qui est le président
Oumarie,
qui est le président de la Fédération de la République démocratique du Congo, il est membre du comité exécutif de la CAF, il disait bon, il y a plus de 4 pays qui sont candidats, et finalement on s'aperçoit que la liste des pays qui démentent avoir fait acte de candidature, elle est très longue.
Oui, mais ce qu'il faut savoir, c'est que la CAF, dès que le Maroc le 10 octobre a dit on demande le report, la CAF a tout de même, par précaution, envoyé à toutes les fédérations, il y a plus de 50 fédérations, à tous les pays africains affiliés à la CAF, a envoyé un courrier en disant, maintenant, que les candidats se prononcent. Il y a eu, à l'arrivée, 5 à 6 candidats. Donc, on parle de l'Angola, on parle du Nigeria, il y en a peut-être d'autres, de l'Égypte, effectivement, qui avaient... Donc, les dossiers ont été étudiés par la CAF. Voilà, la CAF a reçu ces dossiers, elle a fait un tri, elle en a gardé 5 ou 6, et mardi et mercredi au Caire, lors du comité exécutif, les 19 membres du comité exécutif ont étudié ces dossiers. Voilà, donc en disant, il faut déjà, les critères, c'est avoir déjà organisé une CAN récemment, ils n'ont pas dit quand, ça peut être il y a 10 ans, il y a 8 ans, il y a 12 ans, il faut avoir des infrastructures, avoir toutes les infrastructures opérationnelles très vite, les stades, les hôtels, les transports, les hôpitaux, à côté des stades, enfin il y a des cahiers des charges très lourds, donc voilà, ça s'est passé comme ça. Elle n'a pas annoncé en disant, elle a pas donné de nom, la CAF, elle a absolument pas communiqué.
Elle s'est bien gardée de communiquer la liste.
Mais comme elle ne communique pas, ça ouvre la porte évidemment à toutes les supputations, à toutes les rumeurs, vous parliez des réseaux sociaux, sur Internet, la presse, c'est normal. Donc, comme elle ne communique absolument pas là-dessus, et quand elle donne des déclarations, ou quand elle dit quelque chose, c'est par communiquer sur son site, il n'y a pas du tout de point presse, etc. Elle ne communique pas. Donc, effectivement, voilà, les dossiers, je le disais, ont été étudiés au Caire, et une commission a été créée mercredi, qui a été prise parmi ces 19 du comité exécutif, 5 ou 6 dirigeants, sous le contrôle de Issa Hayatou, et qui vraiment peaufine les dossiers. Et c'est une fois que les dossiers sont peaufinés, ça peut être un, comme la Guinée équatoriale apparemment, deux ou trois. Et là, il y a une petite mission d'inspection rapide qui se rend sur place pour voir si c'est OK. Mais voilà, donc tout ça s'est fait dans les règles.
Il est 9h20 à Paris, nous continuons à parler de la Coupe d'Afrique des Nations avec Philippe Zegrave du service des sports. Dean, bonjour.
Bonjour Monsieur Juan.
Vous êtes à Libreville, on vous écoute.
Oui. Bon, la CAN a lieu dans 2 mois et on ne sait toujours pas quel pays va l'accueillir. Donc, pour moi, ça donne l'impression d'une désorganisation de la CAF. Et donc, à ce propos, j'aimerais savoir quelle est la position de la FIFA sur l'organisation de la CAN 2015.
Elle s'est exprimée, Philippe, la FIFA ?
Non, alors la FIFA n'intervient pas, c'est ce que m'a dit hier le membre du comité exécutif. C'est un problème purement Confédération africaine de football. La CAF peut conseiller, mais c'est tout. Alors, certes, la CAF est une émanation, c'est une confédération, comme l'Asie, comme l'Amérique du Sud, comme l'UEFA. C'est une émanation de la FIFA. Mais elle est souveraine dans ses décisions et son organisation, donc la FIFA n'intervient pas. Et quand il disait que c'était un petit peu l'auditeur, que Dean, que c'était un petit peu la pagaille, bon, il faut savoir quand même, sans défendre la CAF, c'est pas notre propos, on prend pas parti, mais quand même, lorsque le Maroc, le 10 octobre, à 3 mois d'une compétition, dit on déclare forfait, vous êtes quand même le dos au mur, et il faut se retourner, il faut trouver des candidats. Alors certes, on aurait pu dire, la CAF aurait pu accepter le report, soit en juin 2016, soit en janvier 2016. Elle ne l'a pas fait parce que pour des raisons financières, je sais pas si on aura le temps d'en reparler, on en a déjà beaucoup parlé, mais voilà, elle voulait l'organiser aux dates prévues.
Ouais. Mansaré, bonjour.
Bonjour, Johan.
Vous êtes
mon prénom, c'est Fasséri.
Ah, Fasséri. Eh ben, soyez le bienvenu sur l'antenne. Vous nous appelez de Conakry, en Guinée. On vous écoute.
Effectivement, oui. Effectivement, oui. Johan, c'est juste vous demander pourquoi, la CAF refuse le report. Puisque, le Maroc n'a pas refusé d'organiser la CAF, mais plutôt, il a demandé un report. Sera le fait justificatif. Et pourquoi
Pourquoi refuser le report? Bah, on vous en parlait à l'instant, Philippe Zegrave. Il y a des enjeux financiers derrière.
Oui, la CAN, c'est ce qui fait vivre la Confédération africaine de football. Elle rapporte beaucoup, beaucoup d'argent. Provisionné, là, pour 2015, 120 millions d'euros de droits télévision, plus tout le reste en sponsoring, marketing. On va arriver à une somme pratiquement de 200 millions d'euros. Et c'est difficile pour la CAF de reporter une compétition de 6 mois ou d'un an. Bon, ça c'est déjà un premier problème. Ensuite, il y a un problème de calendrier, c'est-à-dire qu'il faut décaler tout. Si vous la reportez en juin ou si vous la reportez l'année prochaine, mettons le mois de juin, ça va décaler les compétitions, les coupes d'Afrique de clubs, les championnats. Les clubs européens ne voudront pas lâcher leurs joueurs parce qu'on sera à la fin des championnats ou des coupes d'Europe. Et voilà, ça pose un problème de calendrier. En 2016, il y a le CHAN, le championnat d'Afrique des Nations, avec 16 équipes de joueurs locaux. Ce sont des sélections nationales composées de joueurs évoluant dans les clubs africains. Il a lieu au Rwanda. Il faudrait le reporter d'un an. Enfin voilà, ça crée des problèmes énormes. Donc la CAF a dit non, nous on fait cette Coupe d'Afrique des Nations le 17 janvier.
À suivre donc, c'est passionnant. Peut-être fin du feuilleton aujourd'hui. Oui. Et si c'est dans la journée, à écouter impérativement Radio Foot International à 15h10 temps universel.
Oui, aujourd'hui, samedi au plus tard. Et juste une information que nous avons eue hier soir, le tirage au sort qui était prévu le 26 novembre à Rabat n'aura plus lieu à Rabat.
Ah bon ?
Ça c'est sûr, mais il va être reporté de quelques jours. Il n'aura pas lieu le 26 novembre, il aura lieu peut-être le 28 ou le 29, mais enfin le 1er décembre, voilà, ce sera terminé, on saura.
Vous êtes sûr ça?
Ah oui, mais c'est ce que nous ont dit les gens du comité exécutif. Au 1er décembre, normalement, les quatre groupes seront composés. On connaîtra l'ordre des matchs, mais le pays, on ne le connaît pas encore.
Merci Philippe Zegrave, et on parlera de la Coupe d'Afrique des Nations dans un bon quart d'heure maintenant dans la Libre Antenne. C'est le sujet qui domine au standard 33 9 693 693 70. On a pris un peu de retard. Christophe Paget du service international nous rejoint. Bonjour Christophe.
Bonjour.
Nous avons des questions concernant le Japon. Le Japon, 3 ans et demi après la catastrophe de Fukushima. Bonjour Koulibaly.
Oui, bonjour Monsieur Gomez.
On vous écoute.
Oui. 4 ans après l'accident de Fukushima, les autorités japonaises estiment avoir des garanties pour le redémarrage des réacteurs nucléaires. En effet, mes questions sont de savoir quelles sont les garanties offertes par la compagnie énergétique aux autorités locales et comment a-t-elle réagi l'opinion publique japonaise face à cette annonce?
Alors, il ne s'agit pas pour l'instant d'ouvrir tous les réacteurs nucléaires, mais d'en ouvrir deux, les deux réacteurs de Sendai, hein, dans le sud-ouest du pays. Alors, évidemment, on imagine que toutes les garanties ont été prises pour rassurer les Japonais et la communauté internationale, Christophe.
Oui, pour rassurer, exactement, c'est le terme. Alors les garanties, demandait l'auditeur, eh bien les garanties, ce sont ces fameuses nouvelles normes de sécurité qui ont été mises en place après Fukushima, qui sont vérifiées par la toute nouvelle autorité de régulation nucléaire, qui est censée être moins proche du lobby nucléaire que l'ancienne. En juillet dernier, la centrale dont vous parliez, la centrale Sendai, était donc la première à répondre à ces normes. Alors que disent-elles ? Il faut renforcer de manière significative les infrastructures des centrales. En construisant ce qu'on appelle des centres de commande jumeaux, au cas où les premiers seraient endommagés ou détruits, les seconds prennent le relais, en ajoutant des sources d'énergie secondaires et des sources de refroidissement, ainsi qu'un système de ventilation équipé de filtres qui soit efficace contre les poussières radioactives, on croit rêver, mais c'était pas le cas avant. Et puis aussi, il faut bâtir des murs de protection anti-tsunami. La compagnie qui gère cette centrale Sendai, Kyushu Electric, estime qu'en cas de tsunami, la vague qui la frapperait ne dépasserait pas 6 mètres. Le mur anti-tsunami s'élève donc à 10 mètres, et les salles qui abritent les réacteurs sont situées, elles, 13 mètres au-dessus du niveau de la mer. Enfin, le plus important, et on en parle beaucoup pour cette centrale Sendai, dorénavant, il faut évaluer de manière plus stricte l'éventuel impact des éruptions volcaniques sur les centrales.
Oui, puisque le Japon compte, si ma mémoire est bonne, une centaine de volcans actifs, et les experts ont indiqué que le tremblement de terre de mars 2011 pouvait avoir augmenté les risques d'activité volcanique sur tout le territoire japonais.
Oui, et cette centrale Sendai est située à quelques dizaines de kilomètres à peine d'une chaîne de volcans, mais l'autorité de régulation a estimé négligeable le risque qu'une éruption touche la centrale pendant sa durée de vie. Réaction outrée d'un vulcanologue réputé, hein, le professeur Toshitsugu Fuji, c'est impossible à prévoir sur 30 ou 40 ans. On peut le faire sur quelques heures ou quelques jours au mieux. Il a également rappelé que la centrale, cette centrale Sendai, était située à 40 km du très actif mont Sakurajima et qu'une de ses fréquentes éruptions pourrait facilement atteindre la centrale. Les études ont d'ailleurs prouvé qu'il y a 90 000 ans, les coulées issues de l'éruption d'un de ces volcans près de Sendai s'étaient étendues sur 145 km à la ronde.
Ouais. Notre auditeur nous demandait comment réagit l'opinion publique japonaise justement face à la perspective de l'ouverture de ces réacteurs.
Eh bien, on le disait, en juillet dernier, l'autorité de régulation a indiqué que la centrale Sendai répondait aux nouvelles normes. Après ça, il y a eu une phase de consultation de la population. 18 000 personnes ont répondu présent, et c'est ce problème des volcans qui est revenu le plus souvent. L'autorité a donc mis en place un panel pour rassembler davantage d'informations sur ce risque. Plus largement, 3 ans et demi après Fukushima, la plupart des Japonais restent opposés au nucléaire, même si la fermeture des centrales a forcé le pays à importer énormément de combustibles fossiles, ce qui a augmenté la facture d'électricité de la population. Selon le dernier sondage du quotidien Nikkei, en août dernier, 56% de la population restait opposée au redémarrage des réacteurs. Le 23 septembre, 2 semaines après cette annonce de l'autorité de régulation, plus de 10 000 personnes quand même se sont réunies à Tokyo pour protester contre cette décision du redémarrage des réacteurs. 3 jours après, ils étaient 7 500 à Kagoshima, la préfecture qui accueille la centrale, d'autant qu'une éruption venait de faire plus de 50 morts, alors c'était à plusieurs centaines de kilomètres de là, mais le problème des volcans a été du coup posé de façon encore plus aiguë.
Oui, et l'opinion publique japonaise qui est donc défavorable, c'est un vrai problème pour le Premier ministre Shinzo Abe, puisque lui, il n'attend qu'une chose, c'est de redémarrer toutes les centrales nucléaires pour réduire la fameuse facture énergétique.
Et oui, oui, il a besoin de l'aval des autorités locales pour faire ça, il a donc envoyé à Kagoshima son ministre de l'Industrie, qui a promis au gouverneur et aux élus locaux que l'État agirait rapidement s'il se passait quelque chose. L'Assemblée préfectorale et la municipalité de Satsuma Sendai, qui héberge la centrale, ont finalement dit oui. La population n'a donc pas été consultée directement. On verra lors des prochaines élections comment elle prend la chose. D'un autre côté, le redémarrage de la centrale, cela veut dire aussi le retour d'emplois et de subventions. Enfin, Juan a noté que, comme la loi ne l'y obligeait pas, eh bien le gouverneur n'a pas consulté les autres agglomérations alentours qui seraient pourtant concernées évidemment au premier chef en cas de problème. Plusieurs d'entre elles ont déjà estimé que se passer de leur consentement était inacceptable.
Merci Christophe d'être venu répondre à Koulibaly. Reste avec nous tout de suite le journal et dans 10 minutes, comme promis et comme tous les vendredis, la Libre Antenne.
Appel sur l'actualité vous a été présenté par Orange Monnaie, transfert d'argent et paiement de factures.